esthètes ou chez les gens qui sont passionnés d'art, chose un peu curieuse, mais pas si curieuse que ça si on fait le raccourci par le titre que je vous propose ici, Paysage et art. Eh bien, il y a évidemment beaucoup de connivence et de familiarité entre le paysage et l'art. Et je vais essayer, dans le propos que j'échangerai avec vous, qu'on fait de vous aider parce que vous êtes en train de faire avancer une association depuis 22 ans, si je ne me trompe pas. Et une de vos préoccupations est de faire connaître votre territoire, ce qui est louable, de le faire vivre, de donner une dimension artistique, poétique à ce territoire. Et là, les géographes peuvent être une béquille. Alors en ce moment, j'ai besoin d'une béquille parce que je me suis foulé le pied hier. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, en signe de bienvenue, eh bien, je vous ai mis la digitale, autrement dit, une plante qui est à la fois belle, mais aussi maléfique, et puis probablement secrète, mais qui est aussi et surtout une plante des Vosges. Donc, une plante qui peut probablement accompagner le récit. Car si on veut faire vivre territoire, paysage, on passe souvent par le récit. Et le récit, on peut l'adapter avec une foule de solutions en fonction du public qu'on a, que ce soit un public scolaire ou autre. Alors, je ne suis plus vraiment géographe, puisque je suis géographe maintenant émérite, hein, puisque je suis en retraite depuis une année. Mais j'ai longtemps dirigé le master paysage, donc à l'université de Nancy. Alors, le paysage, bien François Béguin, je solliciterai aussi assez souvent donc, les philosophes. François Béguin, donc, qui est un philosophe, nous dit que c'est un support pour produire de la richesse, s'afficher, et tous les territoires sont en concurrence pour justement s'afficher, mais aussi habiter le territoire. Et le conte, le récit sont des façons aussi de s'identifier à son territoire et rêver. Car en effet, au final, celui qui a toujours raison, c'est ni l'esthète, ni le géographe, etc. C'est le poète. Le poète a toujours raison. Vous avez entendu ça dans une chanson il y a longtemps. Alors, ce paysage, qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup de paysage, c'est pas facile à définir. Les méthodes que les géographes utilisent pour lire le paysage, c'est des méthodes souvent complexes, voire des méthodes de statistique, d'informatique qui sont très complexes. L'école de Besançon, par exemple, fait des choses très savantes sur tout ça. Le paysage, tout d'abord, c'est ce qui est embrassé du regard. Alors, on le voit à partir, en valorisant en particulier donc, des panoramas, des points de vue, des tables d'orientation, etc. Et puis, le paysage, c'est, et mes étudiants me charriaient parfois là-dessus, parce que je le disais souvent, c'est souvent la filiation entre le pays, le paysan, et le paysage. Le paysage, il a été construit par des générations d'hommes. Alors ici, les premiers, c'est souvent très tardif, c'est les récits géographiques du 9e, 10e siècle, c'est-à-dire les saints qui viennent et qui défrichent un peu avec les abbayes. Vous en avez trois ici, qui sont donc des défrichements tardifs. Et puis à ça s'ajoutent des couches de paysages. Et la couche importante qui est en train de disparaître, puisqu'on en parlait il y a peu de temps, eh bien, c'est cette couche industrielle qui actuellement donc est en partie gommée, en partie refusée. Et je pense que dans tout récit sur le paysage, aujourd'hui, il faut réintégrer cette couche, et même si elle est invisible. Parce que une façon de lire le paysage, c'est bien sûr d'être présent dans le territoire, mais c'est aussi d'aller sur Internet et de regarder Google Earth, et de regarder donc les racines du paysage. Les racines et les ailes, c'est bien une émission qui à la mode, et eh bien les racines du paysage, nous on utilise un terme plus savant, on parle de palimpseste. Les traces du paysage, ce qui est ancré dans le territoire, et ce qui ressort par exemple quand il y a une période de forte chaleur, où le différentiel d'humidité du sol se sort. C'est tout ça. Pays, paysan, paysage. Le paysage, c'est donc très souvent un paysage qui est humanisé. Quand l'homme n'intervient plus dans le paysage s'effondre dans la plupart des cas. Alors, sauf, bien entendu, si on souhaite avoir une réserve naturelle, qu'elle soit domaniale, communale, etc., lorsqu'on veut avoir des zones qui deviennent des zones qui retournent à la nature. Et on parle de réserve quand il y a abandon d'un impact anthropique depuis 100 ans. Par exemple, vous avez derrière les chaumes des Vintergés dans le sud des Vosges, vous avez sur le versant alsacien des forêts qui étaient tellement abruptes qu'elles sont inutilisées depuis à peu près 120 ans maintenant. Donc elles sont de nouveau des habitats pour quantité de cavernicoles, quantité d'espèces qui aiment bien vivre dans des troncs d'arbres creux, etc. etc. Et puis, ce paysage, il est sensible. Alors là encore, hein, souvent, c'est les philosophes qui nous ont lancé sur cette idée de sensibilité, et parmi eux, Pierre Sanzeau, qui a écrit un livre qui s'appelle, par exemple, « La France sensible ». Le sensible, c'est ce qui, à mon avis, est le plus important pour essayer de jouer cette carte de découverte du territoire, du cheminement, etc. Le sensible. Et derrière le sensible, il y a le polysensoriel, ça veut dire l'usage de tous les sens, que l'on soit donc dans l'écoute, la musique, le bruit, le vent, humé, etc., etc. Il faut vraiment sensibiliser tous les sens. Et plus on est petit, plus c'est facile à faire. Bon, avec nos petits-enfants, on les fait sentir, on les fait écouter, etc. Ça marche très très bien. Plus on vieillit en âge, plus on s'auto-censure peut-être sur ça. Et pourtant, c'est dommage, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire. Hein. Et c'est pour ça que je parle d'un paysage qui est souvent bavard. On peut être bavard avec le paysage, on peut faire bavarder le paysage. Hein. Il suffit d'avoir simplement le bon entremetteur qui va vous faire bavarder sur le paysage. Bavarder, c'est quelque chose de bien. On ne le faisait pas à l'école, mais là, maintenant, on peut le faire, donc profitons-en. Et puis, j'ai donné une citation donc, d'Éric Dardel, qui est un géographe et philosophe. Le paysage est un visage, un regard, une écoute, une attente, des souvenirs, bref, une suite d'objets qui sont subjectifs. Hein, chacun a sa petite Madeleine de Proust dans son paysage à soi. Et c'est cela qui est important. Alors, promenons-nous un peu justement dans ce paysage et essayons de trouver des pistes pour que Hélicop fasse son chemin des passeurs sur ses 14 km avec peut-être des nouveautés, des nouvelles choses. Hein. Il faut tout d'abord, et là j'énonce le plan que je vais faire, hein, il faut tout d'abord, bien sûr, partir des mots, partir du mot paysage, essayer de l'expliquer. Hein. Et derrière les mots, bien, il y a aussi la Convention européenne du paysage de 2000 qui a été adoptée en 2005 par la France. Et puis la fameuse loi de 2016, qui est une loi sur le paysage qui est extrêmement importante puisqu'elle reconnaît pour la première fois le métier de paysagiste. Donc et derrière tout cela, je crois que je l'ai mis, non je ne l'ai pas mis là, hein, derrière tout cela il y a aussi l'obligation d'une collectivité, qu'est le conseil départemental, d'avoir un plan paysage et un plan réactualisé quand il est un peu ancien. Donc le paysage c'est aussi tout ça. Alors il est banal, bien sûr, il est ordinaire, il est exceptionnel. Les tas de poids, par exemple, au bout du Finistère, c'est un paysage exceptionnel. Le Mont Blanc, c'est un paysage exceptionnel. Mais chacun a son paysage, a ses paysages exceptionnels. Et puis, il est aussi ressource, bien entendu, puisque tout cela, c'est support à du tourisme, à l'association, avec de la gastronomie, avec plein de choses. Et puis, allez, soyons fous, utilisons des mots grossiers, il est aussi synecdoque. Ça veut dire que la synecdoque, qu'est-ce que c'est? C'est le résumé entre l'image de la réalité et l'image simplifiée. Par exemple, le français qui est présenté avec un béret et une baguette sous le bras, eh bien, c'est le résumé du français. Ça ne correspond pas à un français, il y en a quasiment pas qui sont comme ça. Et pourtant, tout le monde comprend hein, que le gars qui a un béret et qui a une baguette sous le bras, c'est le français. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors, le paysage, moi je l'associe aussi au verbe flâner. Au verbe flâner qui a été largement mis en avant par la lauréate du prix d'architecture de 2016, dont je ne retrouve plus le nom, peu importe, qui a dit, le plus beau verbe pour moi c'est flâner. Ben, je crois que le flâner, ça se prête bien à accompagner le paysage, parce que ça donne aussi du temps au temps. Et ça permet aussi d'aller vers d'autres pistes, d'aller vers l'artialisation, c'est-à-dire la lecture du paysage. Hein. Lorsque votre artiste ici peint votre territoire comme ceci, il le transforme, hein, il en donne un autre contenu. Hein. Et puis au final, les gens du coin vont s'approprier ce contenu et se dire, voilà, notre territoire, on peut aussi hein, le lier à cela. Et ça me semble important. Je reviendrai bien sûr sur ça. Et puis, on peut plus facilement aussi aborder le paysage en le reliant à l'épaisseur de l'histoire. L'épaisseur de l'histoire, chaque fois que vous montrez hein, des choses en disant, ben voilà, c'était comme ça il y a 300 ans, les gens ont un certain respect pour ce qui est paysage. Et puis, je terminerai en donnant quelques exemples de ce qui peuvent vous servir, des exemples qui ont été faits ailleurs et qui devraient pouvoir vous servir. Alors, continuons un peu dans l'approche philosophique. Hein. Le paysage, il est au cœur de la noosphère. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs de Chardin. Et noosphère, qu'est-ce que c'est que la noosphère ? Noos, ça veut dire le génie. Hein. Le génie, le noos, hein. chez les Grecs, c'est le génie. Et puis, eh bien, hélas, vous le savez, ce génie, il est créateur. Ou il est parfois également destructeur. J'ai mon image qui s'est agrandie, peu importe. Hein. Le paysage, il est au cœur de ce couple, hein, création-destruction. Voyons un peu tout de suite, peut-être, entrons tout de suite dans mon premier propos, partir du mot, moi je dirais que c'est un mot valise que le mot paysage, parce que c'est un mot que tout le monde utilise, mais c'est un mot qui est également extrêmement discuté, compliqué, complexe, peut-être auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il amène. Hein. On fait de plus en plus d'auberges espagnoles, hein. Fait une fête, puis on dit à tout le monde, ben, vous amenez un plat, bon, voilà. Donc chacun y trouvera ce qu'il souhaite. Hein. Et si on se rapproche des peintres impressionnistes ou des premiers créateurs de cinéma, parce que maintenant je pense qu'ils ont des outils très sophistiqués, eh bien, on mettait en avant la plongée, la contre-plongée, on faisait tourner. Dans Frenzy, par exemple, on fait tourner la caméra autour de l'acteur pour donner une impression d'angoisse, etc. etc. Bref, hein, qu'on soit chez les impressionnistes ou chez les cinéastes, je dirais peut-être jusqu'aux années 70, peut-être encore après, je ne sais pas, hein, on a donc cette idée du paysage qui est une sélection en fonction de ce qu'on veut voir. Hein. Et Picasso avait largement utilisé ça, s'il veut présenter Madame comme ceci, de face ou sur le côté, voire présenter à la fois Madame de face, sur le côté, depuis en haut, et coller les quatre visages d'un côté de l'autre, eh bien, on peut faire la même chose, mais en termes de paysage. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez que chaque département a un CAE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et celui de la Saône-et-Loire avait eu un jour une commande hein, de la ville de Gueugnon. On est dans le foot en ce moment, donc Gueugnon, qu'est-ce que c'est ? Image de Gueugnon. Si je vous demande de me sortir un ou deux mots-clés sur Gueugnon, vous me direz, on ne connaît pas, peut-être.
C'est du côté de Vichy.
Oui, c'est Vichy. Mais beaucoup de gens vont me dire les forges.
Ah oui, les forges. Hein,
l'équipe de foot, les usines. Hein. C'est l'image qu'on a. Mais les gens de Gueugnon, ils avaient marre d'avoir cette image-là, surtout quand leur équipe de foot a décliné. Et ils ont fait venir le CAUE qui a carroyé la carte de Gueugnon et qui a fait une photo nord, sud, ouest, est. Donc des points carroyés, c'est-à-dire qu'ils ont fait, je ne sais pas, plusieurs centaines de photos. Ils ont mixé tout ça et ils ont vu ce qui sortait. Ben, ce qui sortait, ce n'était pas ni le foot, ni évidemment l'usine, c'était le vert. Gueugnon est une ville verte. Alors on peut faire ça au niveau. Hein. Je vous montrerai d'autres exemples. Alors, le paysage, quand est-il né, tout d'abord ? Ben, le paysage, il naît sans nom au XVe siècle dans la peinture. Parce que le mot n'est encore pas inventé. Il n'apparaît encore pas. Il apparaît en particulier donc chez Van Eyck, 1433, la Vierge au chancelier Rollin. Et on voit qu'on a déjà de la profondeur et du paysage. On a Chasseloup Vinci au siècle suivant, avec le sfumato, hein, avec les techniques donc de clair-obscur, si vous voulez. Et puis, la Renaissance intègre le mot paysage donc assez tardivement, puisque le mot paysage, il apparaît dans les premiers dictionnaires de la Renaissance, le dictionnaire d'Étienne, qui doit être de 1550 à peu près. Donc on a des difficultés pour cerner un paysage. Un paysage naît quand un regard croise un territoire. Ça, c'est Georges Bertrand qui nous dit ça. Et puis moi, j'aime bien aussi quand on parle d'aménité des paysages. Le paysage est amène, c'est-à-dire qu'il est agréable. On a envie de le vivre. Alors ça, c'est souvent lié à l'enfance. Les paysages de notre enfance sont les paysages que nous aimons le plus en général. L'aménité, donc, ce qui est à la convergence de l'histoire, d'une intuition, de l'enfance, du milieu, etc. Bref, tout ça est très paysage, les révolutions industrielles, les guerres, les déshérences. Les révolutions industrielles qui bouleversent les paysages. Imaginez la ville de Jeuf, par exemple, entre 1890 et 1914, la ville quintuple au moins de population. On passe de 8 à 1 en termes de densité, partout. C'est-à-dire que beaucoup de paysages s'effondrent. On a la même chose avec la guerre de 30 ans. On a quantité de textes qui nous disent, tout est entre le tiers et les deux tiers des populations qui disparaissent. Et puis, bien entendu, on a les fameux polémopaysages, les paysages de guerre, qui sont des paysages qui ont été parfois détruits jusqu'à la racine des plis. Il y a les villages les plus affectés par le front ont pu diminuer de 6 à 7 mètres d'altitude. Donc on a des paysages qui sont parfois... Alors ici, par exemple, le village de Fliré, détruit. Il ne reste plus que la carcasse de l'église. Le village a été déplacé à 700-800 mètres de là. Et voilà Fliré, lu par Google Earth. Alors bien entendu, avec aujourd'hui les traitements LIDAR, c'est-à-dire le balayage, on bombarde de neutrons, de je ne sais quoi, la surface, et on peut restituer la topographie exacte des lieux, sous forêt ou sans forêt. Et on a comme ceci donc des possibilités infinies maintenant de faire de l'archéologie des paysages. À tous les niveaux. Donc on a des palimpsestes, on a des traitements SIG qui permettent de faire une foultitude de choses. Moi j'ai mon collègue Xavier Rochelle qui a mis en SIG le cadastre napoléonien et qui restitue comme ça des blocs diagrammes d'occupation du sol, parcelle par parcelle, 1830. Ce qui est évidemment un très, très bel outil d'aide à la décision. Savoir pour connaître les racines de son paysage. Alors, le paysage a été aussi toujours entretenu par les hommes, par les paysans, et un certain nombre de peintres ont pris ça comme modèle d'inspiration. Je pense en particulier à un peintre lorrain qui s'appelle Montchablon, qui peint ici donc l'open field en fond vel. En fond vel, c'est à la limite entre la Haute-Saône et les Vosges de l'Ouest. On s'arrête un petit peu, y a-t-il des questions déjà sur ce que je raconte là? Non?
Ça va.
Vous êtes sages comme des images? Ça va?
C'est clair?
C'est clair? Bon, c'est bien. Alors là, voilà un cadeau qui m'a été fait par un artiste, justement. Donc, on est ici chez les artistes. Bien, je vous le soumets. En fait, c'est Rémi. Je ne sais pas pourquoi, mais les images se sont décalées. Bon, peu importe. C'est Rémi Malingré à qui j'avais demandé donc de faire quelque chose sur le paysage. Et en pensant au général de Gaulle et aux 300 fromages, il a dit comment voulez-vous qu'on fasse des paysages, comment voulez-vous qu'on interprète, qu'on connaisse, qu'on évalue les paysages dans un pays où il y a 365 fromages? Bon, c'était un petit clin d'œil donc au général et un petit clin d'œil à la complexité de nos paysages. Quand on va dans des pays neufs, on est toujours très surpris. Alors moi, je ne connais pas l'Australie, mais je suis allé au Canada, par exemple. C'est vrai que vous avez la vastitude, même sur le chemin du roi, autrement dit, entre Montréal et Québec, qui est la partie la plus humanisée, vous vous embêtez vite parce que le paysage se répète et se répète et se répète. Chez nous, nous n'avons pas ça. Le seul endroit très monotone que l'on a, c'est une partie du bassin parisien, la Beauce. sur une centaine de kilomètres où on a du blé, et puis peut-être les Landes sur 200 kilomètres où on a largement de la forêt. Ailleurs, les choses changent tout de suite et très vite. Pente, altitude, exposition, tout ça fait que tout ça change, et très vite. Donc je pense qu'il avait raison, ce brave Ingrès. Hein. La France a 365 fromages, mais elle compte encore plus de paysages.
Depuis le général de Gaulle, on en a créé au moins 1000 fromages.
Hein, oh ben oui, en plus.
On est en train de retraper les paysages.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, s'ajoute et se superpose donc à l'idée de paysage, une vue, l'idée du paysage artistique, et j'ai essayé de trouver quelque chose qui collait à peu près à votre territoire, ici. C'est le vitrail de Gruber qui se situe donc à la bourse... à l'ancienne bourse de commerce de Nancy, et vous en avez un détail ici, donc avec les usines, avec les vallées incisées, et puis un ciel qui est tout aussi curieux que ne sont les fleurs de votre artiste ici, hein, avec un ciel qui est extrêmement tourmenté au dernier plan. Vitrail de Gruber, père bien entendu. Si on reste toujours dans cette définition du paysage, le paysage, j'avais dit qu'il était associé au pays et aux paysans, mais le paysage, il est surtout partagé, tout compte fait, par assez peu de civilisations. Car en effet, le paysage, il est associé à la civilisation du jardin. Or, qui a le jardin dans sa civilisation? Eh bien, il y a trois civilisations, hein, qui ont le jardin. Il y a la civilisation islamo-méditerranéenne, et puis vous avez la civilisation chino-japono-coréenne. Voilà. Ailleurs, il n'y a pas de paysage. Donc pour nous, on est essentiellement dans la civilisation du livre, dans la religion des livres, juifs, chrétiens et musulmans, qui chacune se réfère à un jardin idéal. On est bien dans cette notion de paysage et toujours marqué par cela. Et quand les croisés anglo-saxons protestants sont allés conquérir l'Ouest américain, ils y sont allés avec une fourche dans la main, certes, un fusil pour tuer les Indiens parfois, mais surtout aussi une Bible. Et ils ont été très marqués par cette idée de paysage. Alors ce n'est pas les paysages de chez nous, ce n'est pas le paysage anthropisé de chez nous, c'est le paysage naturel. Ce qui explique, par exemple, qu'ils ont décidé dès 1871, c'est quand même très tôt dans leur histoire, hein, eh bien, de faire le fameux grand parc, le grand parc de Yellowstone, qui est grand comme, je crois, un tiers de la Belgique. C'est pas un tout petit parc. Et puis, quantité d'autres, hein, Yosemite Park, etc., etc. Là, on est dans ce qu'on appelle la wilderness, on est dans le paysage sauvage. Alors que nous, notre référence, c'est le paysage anthropisé, le paysage de l'homme. Et ce paysage de l'homme est donc un paysage qui est très marqué par le jardin, très marqué par la mythologie, très marqué par le labyrinthe. Autrement dit, qui s'enfonce, hein, comme les cultes toniens, dans la mémoire du sol, hein, le labyrinthe, qu'on va retrouver dans tous les beaux jardins. Ici, c'est tout simplement Berchy-Grange, hein, je vous ai montré là, qui est près de Grange-sur-Bologne. Hein, mais qu'on va retrouver aussi dans le dallage des cathédrales, puisque vous avez des très beaux labyrinthes dans les dallages des cathédrales, l'un des plus beaux étant en Chartres. Si vous allez à Chartres, vous voyez les gens qui se baladent, qui font le labyrinthe. Et puis, eh bien, on peut faire un petit clin d'œil à ce couple, hein, grâce à Ariane, Thésée, on va pouvoir tuer le Minotaure et ne pas se perdre dans le labyrinthe, puisqu'elle lui a donné le fil pour remonter le labyrinthe. Voilà, c'est tout cela le jardin. Et ce jardin, eh bien, il est dans la civilisation chrétienne, il est caractérisé entre autres par le jardin monastique, et vous en avez une belle copie ici de ce jardin monastique avec le jardin donc des récollets à Metz. Alors, ce paysage, il est aussi, pour un géographe, il est objet d'aménagement.
Aménager, ça veut dire répondre aux besoins des ménages. C'est ça la première définition. Et aménager, ça veut dire aussi ménager. De même qu'il faut qu'on ménage notre santé. Dans cette logique-là. Répondre aux besoins du ménage avec le double sens de ménage. Le ménage, le foyer, mais aussi le fait de se ménager. On est bien là dans un discours écologique de base. Donc il y a toute une série de lois, je disais, qui organisent cette gestion du paysage, depuis les lois paysages des années 90 jusqu'à la loi de 2016 que j'évoque, hein, Convention européenne du paysage, et puis bien, les outils barbares, hein, peut-être pour vous qui êtes peut-être des poètes, les PLU, hein, les plans locaux d'urbanisme qui deviennent des PLUI avec les nouvelles communautés de communes depuis, grosso modo, depuis l'application de la loi Land de 2017, hein, et les élus souvent essayent d'adosser ou tentent d'adosser actuellement à un PLU un plan paysage, ce qui leur permet de faire par exemple un inventaire des friches, un inventaire des zones qui sont des zones grises, des zones polluées, etc., etc. Donc c'est un bel outil, mais là on fait perdre en poésie avec cette... Par contre on est à la bonne échelle, l'échelle de la Comcom, même si elle a grandi, c'est quand même une bonne échelle pour pouvoir travailler sur le paysage, travailler ensemble sur le paysage. Donc le paysage est bien une boîte à outils. Là, je voulais donner une citation de deux géographes, Nathalie Carcot et Mme Cormier. Et puis, bien, quand on veut parler de paysage avec un public plus élargi, je crois qu'il faut donner une dimension un peu férique. Et associé au paysage, eh bien, un animal, un personnage, vrai ou mythique, hein, voire un insecte. Et moi, j'ai choisi ici un insecte, puisque je vous ai présenté ici l'avion de Mercure, hein, qui est un joli insecte, dans la mesure où il ne vit que dans les zones humides qui sont encore protégées, grosso modo. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on peut... Alors on peut évidemment raconter le Dahu ici, on peut raconter le Tétras, on peut raconter plein de choses pour accompagner, hein, le voyage dans le paysage. Et puis on peut faire intervenir, ben, les grands saints qui sont racontés par les récits hagiographiques, hein, les Colombans, les autres, enfin tous ces moines, moines ou femmes religieuses, hein, qui ont marqué donc tout le Moyen-Âge. Voire on peut mobiliser aussi, pourquoi pas, hein, les Carolingiens qui sont venus ici, paraît-il, abondamment chassés. Alors le conseil départemental des Vosges était en avance, puisqu'ils avaient fait leur paysage, hein. Ils avaient fait leur plan paysage, il y a bien une bonne dizaine d'années ça, ils l'avaient fait sous la forme d'un CD-ROM à l'époque, donc aujourd'hui, eh bien, j'ai une de mes anciennes étudiantes qui est en train de refaire ce plan paysage des Vosges, parce que évidemment il est obsolète, il est encore sous la forme, je vous dis, d'un CD-ROM, ce qui n'est plus du tout adapté. Aujourd'hui, hein, ce plan paysage, il doit être partagé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir répondre, réagir, interroger, etc., avec les outillages informatiques qui sont ceux d'aujourd'hui. Et puis voilà une autre piste. Alors ça, je pourrais vous donner le document, parce que lui, hein, il est écrit un peu petit. Il faut que je me rapproche parce que je n'arrive pas à lire. Ça, c'est écrit des cures sensibles du paysage. Monsieur qui a inventé ça, il s'appelait Charles Avocat. Donc vous pouvez retrouver, je pense, en ligne. Si vous tapez Charles Avocat, grille de lecture sensible des paysages, vous pouvez retrouver ça. Et ce monsieur-là, donc, qui est mort dans une avalanche en 84, donc avant l'informatique, ou à l'époque où l'informatique balbutiait, il avait fait ses grilles de lecture pour mobiliser l'ensemble des sens sur les paysages. En travaillant à l'armée, on fait ça aussi, hein. Certains ont fait l'armée, ils se rappellent peut-être qu'on apprenait fomec, forme, ombre, masse, éclat et couleur. Non, personne n'a appris ça. Alors, bon. Ben moi, j'ai appris ça. Et puis, c'est un peu dans le même esprit. Hein. Donc,
les volumes, les formes, les plans, les trames, les couleurs, les lumières, la matière, les odeurs, les bruits, les signes culturels, etc. Et il y a, quand j'étais jeune prof, un de mes premiers étudiants avait fait son travail là-dessus. VNF lui avait demandé donc de faire une étude paysagère du petit canal qui va entre la Moselle et la Meurthe, au sud de Nancy. Donc tous les 500 mètres, eh bien, il prenait cette grille-là et puis ben, il la remplissait pour faire une étude du paysage. Alors aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut faire beaucoup mieux, bien entendu, mais il avait fait ça. Et j'avais une autre copine qui avait fait autrement, elle était chercheur au CNRS. C'était une glaciologue, puis avec l'âge, elle ne pouvait plus être glaciologue parce que physiquement, elle n'arrivait plus. Donc, elle avait fait le chemin de Saint-Jacques avec une montre qui sonnait toutes les demi-heures. Et toutes les demi-heures, elle faisait une photo nord, sud, ouest, etc. Et elle a mixé tout ça pour donner une impression de son paysage. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Pourquoi pas faire ça avec des enfants, après une montre, avec un altimètre, tous les 100 mètres en montant, par exemple, ou bien tous les 500 mètres en distance, enfin, on peut varier à l'infini. On fait nos quatre photos, et puis voilà. Y a un artiste qui a fait ça pour Nonville, il s'appelle Monsieur Claire Arthur, vous le connaissez peut-être? Non, personne? Oui. Bah, Claire Arthur, il avait fait ça, lui il est allé chez les gens. Donc les gens du petit village de Nonville, puis il les a photographiés devant chez eux, puis il leur a dit maintenant, vous m'amenez où vous êtes, dans l'endroit que vous aimez le plus de votre territoire. Alors ça pouvait être l'arbre, c'était déclaré la flamme il y a 50 ans, ça pouvait être, voilà, c'était extrêmement varié. Et puis après, il a réuni tous les gens du village, bon, c'était petit village, mais ça vous donne des pistes pour ici. Hein. Il a réuni tous ces gens-là sous une yourte. Ils avaient les moyens, ils avaient les fonds leaders à l'époque. Et puis ils ont échangé sur leurs images, puis sur d'autres images bien entendu. Voilà, c'est, bon, avec un appareil numérique, on peut faire ça de façon très très simple maintenant et pas coûteuse en plus. Voilà. Donc vous pouvez aller chercher hein, les grilles de lecture sensibles d'avocats. Alors plus moderne, ici une sculpture qui a été faite par la Maison du Paysage hein, de Sion, puisque vous savez, Michel Dinet avait eu l'idée de lancer cette Maison du Paysage avant qu'il soit rattrapé par un accident mortel. Et voilà, ici, donc, on a une sculpture où c'est marqué « Paysagissons, oui, agissons sur le paysage ». Tout ceci montre qu'à partir du paysage, on peut faire aussi plein de jeux de mots. Et je vous en cite un ici, c'est le philosophe Alain Roger qui, lui, a parlé de paysage. Le paysage, le top du paysage étant probablement le paradis. Voilà, le paysage. Donc je pense que si on récite bien, si on raconte bien son paysage, tous les paysages sont paysages. Tous. Alors, quels sont les outils pour cheminer vers ce paysage? Bien, un des outils les plus communs est de plonger dans le passé. Or, nous avons la chance d'avoir un territoire qui a à peu près 200 à 300 ans de couverture cartographique. Vous avez localement ici un des premiers cellières, un des premiers barons cellières qui a fait dans les années 1900, donc un très beau livre, très précieux, très, très cher maintenant, hein, qui est donc un ensemble des relevés, des cartes de la principauté de Salmes. Bon, il y a de quoi faire, rien qu'avec ça. Hein, voilà. Et puis moi, bah, je vous ai simplement pris une capture d'écran de la carte d'Hénaudin, 1730, pour vous montrer un territoire qui est quasiment aux portes de chez vous, puisqu'il y a les forges, et puis le col de Salles et la petite ville de Salles. Donc si vous allez sur internet, vous retrouverez l'ensemble, grosso modo 90% de la Lorraine et puis 20% de territoires qui sont autour, qui sont cartographiés au 1/28 millième. Donc ça c'est très, très, très intéressant. Alors journée d'études vosgiennes de Senones, je viendrai te parler un peu de ça justement. Alors quatre dimensions
pour le paysage, sa description, ses façons de décrypter, les façons d'habiter. Et là, je crois qu'il faut faire intervenir les cartes mentales des enfants. Je fais une partie du chemin des passeurs et je dessine, je restitue mon chemin des passeurs. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je suis sûr que mes petits-fils, ils verraient une coccinelle qui viendrait grosse comme ça. Hein. Voilà. Donc, chacun, en fonction de son âge, va faire une carte mentale de ce qu'il a vu. Hein. Alors, le classique, c'était de faire bon, fais le chemin qui va de ta maison à l'école. Bon, ça, c'est une chose classique. Mais c'est intéressant de faire ça. Hein. Donc, là encore, hein, c'est des choses qui sont simples. Hein. Habiter. Communiquer, enseigner, vivre son paysage, qu'il soit ordinaire ou exceptionnel. Et cette dimension poétique du paysage, eh bien, on peut la retrouver dans quantité donc, de travaux de philosophes. Je vous en ai cité un actuel qui s'appelle Jean-Philippe Pierron. Et puis, je donnerai la biblio tout à la fin. Et puis, je fais référence à Gaston Bachelard qui a beaucoup travaillé sur cette idée de paysage. Alors, ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que les Chinois en particulier ont une autre approche que nous du paysage. Les Chinois ont, et c'est le philosophe François Julien, donc, qui est un Français, qui vient de sortir un bouquin, là aussi vous aurez la référence tout à l'heure, qui vient de sortir un bouquin justement qui dit attention, nous on lit le paysage avec notre affectif, avec notre culture, avec le poids de la peinture qu'on a derrière nous, avec les images stéréotypées. Si je vous dis Tahiti, vous allez me dire les Vainés. Hein. Bon, ben, c'est certainement pas ça. On a un parent qui a vécu à Tahiti, c'est tout sauf les Vainés. Tahiti, c'est souvent la pauvreté, c'est la pollution nucléaire, c'est, voilà, etc. Donc, les images. Et lui, les Chinois ont une autre approche des choses. Hein. En particulier, ils essayent de voir le paysage en associant des contraires. Hein. Les contraires. Le stable et l'instable, l'ouvert et le fermé, etc. etc. Donc, François Julien explique tout ça dans son bouquin. C'est un sinologue, hein, philosophe et sinologue. Et en particulier, eh bien, ici, il y a le couple eau-montagne, qui est un couple intéressant, l'eau qui gloute, qui cascade, qui est en crue, etc. La montagne qui est stable, hein, qui est rationnelle. Et Pierre Pellot, eh bien, est probablement un très bon communicant là-dessus. Hein. Je pense que vous pouvez associer Pierre Pellot, enfin, du moins les textes de Pierre Pellot, à cette approche donc, de lecture de votre territoire. Alors, le paysage, il est valorisé par le chemin, le récit, la porte ouverte. Je pense que Maurice Potcher avait été extrêmement audacieux quand, en 1895, c'est ça, il avait osé faire un théâtre ouvert, hein, puisque les coulisses, c'est la forêt vosgienne qui sont derrière. Hein. Il était osé. Hein. Alors, il y a un certain nombre d'autres artistes. Je citais Pierre Pellot tout à l'heure. On pourrait citer, bien sûr, les photographes comme Ganet ou Claudon. Claudon, qui est un photographe un peu particulier, puisque, vous savez, il est essentiellement branché sur les vaches. Sur les vaches vosgiennes. Hein. Puis il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Et puis ce paysage, eh bien, il changeait avec les saisons, j'avais évoqué. Dès qu'on voit un paysage comme celui-ci, eh bien, on ne pense plus au mot paysage, mais au mot poésie, au mot calme, au mot aménité, au mot silence, au mot neige. Hein. Bref, on peut dire qu'ici, que l'artiste s'empare du lieu. Hein, et fait sa propre alchimie de lecture du paysage. Est-ce que ça va ? Ça va, c'est pas trop long ? Alors, dans les Vosges, eh bien, les paysages se sont artialisés en trois couches. Alors, tout d'abord, quelques mots sur l'artialisation. Quel vilain mot. Eh bien, c'est pas un si vilain mot que ça, puisque c'est un mot qui date du XVIe siècle et qui a été inventé par quelqu'un que vous connaissez tous, puisque c'est Montaigne qui a inventé ce mot artialisation pour parler du raccourci entre l'œuvre peinte à l'origine, l'œuvre peinte et le paysage. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin puisqu'on mobilise tous les sens. Vous n'avez peut-être pas vu le dernier, mais vous connaissez tous le Brunel et le Bleu. Voilà. Donc, je veux dire, on a des images qui se collent à d'autres pratiques que la simple pratique savante de la peinture. Mais à l'origine, c'est ça. Arcellisation, c'est lié à ça. Alors, bien entendu, il faut aller beaucoup plus loin que ça si on veut communiquer sur son territoire. Je citerai aussi un article que j'ai fait là sur justement l'arcellisation du massif vosgien. Il est en ligne, donc vous pourrez le lire sans problème. Sans problème. Alors, trois couches peut-être d'arcellisation ici dans les Vosges, trois couches intéressantes. La première couche, c'est le récit hagiographique, ça veut dire les récits des villes-sars, de ces défricheurs, de ces gens qui font des miracles, de Saint-Odile qui trempe sa tête dans la fontaine et puis qui voit clair, etc., etc. Enfin, c'est tout cela. Et autour de tout cela, on peut bien entendu associer le paysage hirsute, peu humanisé, et puis tous ces récits, tous ces romans. C'est ce qu'on appelle la géographie. Deuxième couche peut-être de paysage, c'est la cartographie, 16e, 18e. On a plein de cartes qui nous présentent, bien entre autres, le massif vosgien. Je vais vous en montrer la plus connue de celles-ci, c'est celle du président Thierry Alix. J'en ferai quelques commentaires. Et puis la troisième couche d'artialisation classique, c'est bien entendu les polémopaysages, les paysages de guerre, l'Artman de Villarskov, etc., etc. Vous sentez bien que les trois que je viens d'évoquer ne sont pas celles qui sont les plus partagées par nos concitoyens. La géographie, culture judéo-chrétienne, c'est plus trop partagé. La cartographie d'époque moderne, c'est une question de spécialiste. Et puis, il y a le respect, voire l'irrespect avec les polémopaysages. Et l'irrespect est plus fréquent que le respect, voire l'oubli, l'indifférence, ou le tagage, la destruction de stèles, etc., etc. Mais ça, je pense que mes camarades qui sont venus il y a quelques temps ont dû vous parler de ça, parce qu'ils connaissent bien le sujet. Je pense à Fonbaron et à Patron des Listeux. Voilà cette carte que je voulais vous montrer, qui est probablement celle qui peut faire rêver s'il y a un bon accompagnateur qui explique. Qu'est-ce que c'est ici? Vous avez la carte donc, qui a été faite par Thierry Alix, le président Thierry Alix, pour Charles III. Il va monter dans les Vosges, il va regarder le terrain, et puis au moins 25 ans après, il va transcrire ça en carte. Alors que c'est un archiviste paléographe, c'est un archiviste, c'est quelqu'un qui vit essentiellement donc dans la poussière des bouquins, tel qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. Et il s'est fait plaisir, il a donné une certaine rêverie à cette carte. Alors quand on la regarde dans le détail, on peut l'étudier dans le détail, c'est vraiment extrêmement riche, il y a vraiment une foultitude de choses. Il y a des choses qui sont vraies, par exemple les traces d'exploitation minière au-dessus de Longenère, par exemple. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Je vous ai donné la cote, mais en fait, vous pouvez trouver ça sur Internet sans problème. Alors, l'artialisation, donc mot né avec Montaigne, avec la Renaissance, eh bien, cette artialisation, elle est souvent dans les Vosges associée à l'idée de ligne bleue des Vosges. Or, l'idée de ligne bleue des Vosges, je vous rappelle que c'est un extrait donc, du testament de Jules Ferry, qui meurt donc en 1893, si mes souvenirs sont bons, et qui dit ce qui est indiqué ici. Je désire reposer en face de cette ligne bleue des Vosges, d'où monte jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus. Ligne bleue des Vosges. Ligne bleue des Vosges, donc, qui fait un peu figure de synecdote, c'est-à-dire de résumé de ce territoire. Alors, pourquoi pas utiliser ce biais aussi pour aller se promener sur le chemin des passeurs, puis dire, ben voilà, on est sur un petit bout de la ligne bleue des Vosges. Où elle est? Est-ce qu'elle est cachée quelque part? Enfin, faire des jeux, peut-être, sur le sujet. Alors, ce massif... avec ses paysages arcialisés, on peut les identifier donc autour des polémo paysages, du déclin du sport de neige. Il faut trouver autre chose dans les Vosges. Il y a urgence à trouver autre chose que le sport de neige parce qu'il n'y a plus de neige, hein, ou il y en a de moins en moins. J'ai osé dire ça à la Bresse. Je signale quand même que quand je faisais ma thèse, j'ai exhumé en particulier un document qui est un procès-verbal de visite des forêts et des chaumes des Vosges en 1700 par le Gruyer de Bruyère. Et quand il interroge les gens de la Bresse, bien les gens lui disent « il y a tellement de neige chez nous que nous faisons des tunnels pour aller d'une ferme à l'autre ». 1700. On est dans le plein boom du petit âge glaciaire. La fin du règne de Louis XIV, hein, où la soupe des cuisines arrive gelée quand elle arrive sur la table du roi. Donc actuellement, eh bien, il faut trouver d'autres choses, il faut trouver d'autres sports, d'autres formes de récits pour travailler sur le paysage, bien sûr. Hein, et il faut mettre tout cela en réseau, ce qui est indispensable pour être lisible de l'extérieur. Alors le chemin se prête bien à raconter plein de choses. Moi qui aime bien la forêt, je pense que je travaillerai surtout sur les beaux arbres. Hein. Alors ici, vous avez... Il n'était pas branché.
Oui.
Attendez, je vais...
Je voulais te voir là. Non, il n'est pas branché.
En haut.
Sur l'ordinateur, ouais.
Voilà,
ça va.
C'est bon.
Voilà. Donc la forêt se prête bien justement à développer cet imaginaire, en particulier avec, et même de faire un peu de botanique, puis un peu d'instruction civique, hein, avec, pourquoi pas, hein, ces arbres plus qui sont les arbres du défilé de Stature, hein, que les forestiers continuent à escalader pour aller chercher des graines qui sont des graines exceptionnelles. Puis on peut aussi parler de toute la vie, de tout le cycle de vie de l'arbre, en faisant le lien par exemple entre... respecter les fourmilières dans la forêt vosgienne, parce qu'elles sont essentielles, hein, pour maintenir donc de la biodiversité, ou encore parler d'arbres secs, d'arbres effondrés, etc., hein, qui vont donner de la nécrovasse et qui vont faire un retour à la vie. Alors là, une image comme ceci, pour moi, est très parlante. Je pense qu'on peut tous faire, par exemple, souffler le vent, souffler le vent, à quelle vitesse va le vent dans les Hautes-Vosges? Bah ici, il va souvent entre 120 et 160 km/h. Hein. Moi, je sais qu'un jour, on a voulu aller aux Trois-Fours avec les étudiants. On est sorti pas 10 minutes du bus, tellement il faisait froid, tellement il faisait moins 20 à peu près. On voyait à 10 mètres, une impression effrayante. Hein. Donc le paysage, il a aussi dans cette impression effrayante. Et on peut associer très, très facilement, je pense, on peut cultiver l'imaginaire du Dahu, etc., ou des fées, ou des je ne sais quoi, avec ces sorbiers des oiseleurs qui sont penchés par le vent et qui ont une forme de drapeau, hein, sur les hauts. Alors, sauf, bien entendu, sauf si on y va... entre le 14 juillet et le 15 août, là, c'est devient les champs, hein, l'équivalent des Champs-Élysées. Tellement il y a de monde, mais ça, c'est normal. Alors, on peut aussi convoquer la musique pour parler de paysage et convoquer les paisibles clarines. Hein, fait partie du jeu, bien entendu. On peut aussi convoquer la géologie, la géomorphologie, la glaciologie, hein, pour parler en particulier donc de ces gros blocs erratiques. J'ai vu une dame qui vient d'Australie ici, qui est à côté, qui vous donne l'échelle du bloc. En fait, ici, il s'agit peut-être, vous connaissez, c'est la pierre Charlemagne, donc près du saut des cuves. Et puis à côté, eh bien, vous avez les traces de ces gros glaciers qui ont quitté, hein, la Lorraine il y a 15-20 000 ans et qui, en avançant, eh bien, quand ils étaient portés eux-mêmes des bouts de cailloux, grattaient et donnaient donc ces grandes stries. Alors là, on peut raconter plein d'histoires. À partir de ça, on peut faire vivre l'imaginaire. Hein. Alors, on dit que c'est le pied du cheval de Charlemagne, par exemple, qui a cassé ce... Or, souvent, les Vosgiens sont des poètes, vous le savez, hein. Ils ont donné des prénoms de jeunes filles à ces gros blocs erratiques qu'ils avaient dans les Vosges, un peu partout.
Un gros Spartan.
Bref, le paysage, ça marche si on y fait la fête. Alors j'avais fait un petit résumé ici, hein, entre la ressource, les pratiques, hein, la prudence, hein, l'apprendre ensemble pour faire la fête autour du paysage. Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus savant. Passons à des exemples pour justement vous aider. Passons à des exemples. L'exemple de Nonville. Nonville, c'est un petit village donc, qui est dans l'ouest vosgien, et qui en 2005 avait décidé de faire une fête du paysage. Je crois qu'ils sont 50 à Nonville. Donc ils avaient fait monter un dossier leader avec les foyers ruraux, etc. Et puis ils ont fait donc deux week-ends de fête et de théâtre autour du paysage, donc sur Nonville. Ça a fortement bien marché. Je crois qu'il y a eu à peu près 5000 visiteurs au cours des deux week-ends. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu les fameux rendus sous yourte que j'évoquais avec l'artiste que j'avais évoqué tout à l'heure, etc. Bref, ils ont inauguré quelque chose qui aujourd'hui ne se ferait peut-être moins, parce que je crois que la vis financière est plus serrée. Hein. Mais il y a des solutions. Donc, moi j'avais écrit un article là-dessus avec Rachel Jacobin, puis il y a plein de choses qui sont en ligne et qui peuvent encore vous inspirer. Ils peuvent vous inspirer sur cette fête du paysage qui a été tout à fait intéressante. Alors, avec des moyens qui sont très différents, le Conseil Général avait fait un certain nombre d'événements quand ils ont racheté le bâtiment des Pères Oblats et qu'ils ont voulu faire, donc, préparer la construction de cette maison du paysage. Avec entre-temps la découverte que les greniers des Pères Oblats étaient un habitat pour les chiroptères, ce qui a fortement compliqué les choses et a demandé à M. Michel Dinet en particulier d'embaucher un spécialiste des chiroptères pour pouvoir gérer le truc avant de construire cette maison du pays. Alors, faire l'événement, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ici, par exemple, le personnage ici, c'est un artiste, bien sûr, qui représente quoi ? Ben, il représente quelque chose qui intéresse le géographe, il représente le bajossien. Le bajossien, autrement dit, l'étage calcaire hein, du secondaire. Et il dit, vous rendez compte, moi j'ai 5 millions d'ans, je suis jaune, je suis dur, etc. Enfin, il expliquait avec des mots sympathiques, tout comme fait, une lecture qui autrement serait très indigeste de la géologie pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Donc il avait fait comme ça une pièce de théâtre sur le bajossien. Bon, faut oser. Hein. Et puis il y avait toute une série donc, d'expositions en plein air, en particulier une qui rappelait que les Pères Oblats avaient été très, très présents en Afrique. Donc il y avait eu toute une série de manifestations autour des masques africains. Hein. Et puis on avait laissé aussi la parole à toute une série donc, d'expositions temporaires, hein. Comme ici cette exposition donc, des chaises. Voilà. Enfin, vous êtes plus avant moi sur tout ça, donc je fais. Et puis je vais donner un dernier exemple, c'est l'exemple de Laxou. Laxou, donc, qui est dans la banlieue de Nancy, est un village à l'origine vigneron, ce qui veut dire que les parcelles de vigne, qui étaient des parcelles essentiellement travaillées par des pauvres, ce sont des parcelles qui font entre 2 et 5 heures. Donc ces parcelles, elles ont rarement été renombrées, donc elles existent toujours. Et vous avez toujours les chemins de vignotte, les petits chemins donc, de vigne qui font en moyenne autour d'un mètre 40. Et puis, pas le maire actuel, mais le précédent, a eu l'idée de se dire, faire quelque chose de ça, c'est des non-lieux, c'est des lieux de non-droit, c'est des lieux craints, les gens ont peur d'y aller, c'est de la friche partout, c'est sale, c'est... Pourtant, on est à 2 km, grosso modo, 2,5 km de la place Stanislas, ça vaut le doigt. Donc, ce maire-là, les deux maires successifs ont eu comme idée tout d'abord de se dire, pour requalifier un territoire, il faut tout d'abord lui donner un nom. Il faut donner des noms, il faut odonymer, donner des noms. C'est comme ça, par exemple, qu'il y a Épinal, Argan, qui était le maire d'Épinal dans les années 60, avait dit, bah, la maison qui est très belle, Renaissance, sur la place des Vosges, on va l'appeler la maison du Bailli, il n'y avait jamais eu de Bailli. Et tout le monde, maintenant, dit la maison du Bailli. Bon, là. Donc, il faut donner, odonymer, donner des noms, si possible, aussi des noms qui sont sympathiques, qui font rêver, pourquoi pas. Il y a quand même une com-com en Bretagne qui s'est appelée com-com de Brocéliande, du pays de Brocéliande. Déodacie, c'est pas mal. Hein. Par contre, il y en a plein qui sont appelés les Trois Vallées, les machins, aussi. Ça fait pas rêver, ça, ça fait pas. Hein. Donc, vous voyez, une histoire de paysage, c'est une histoire d'odonyme, de nom. Quand un gamin a un prénom très anglo-saxon, très image d'un film qui est daté, etc. Moi, j'en connais un qui s'appelait Johnny, c'est dur quand même à porter. Donc, l'odonyme, c'est quand même important, mais donner une dimension. Donner des beaux noms, si vous voulez, à son territoire, c'est quelque chose qui est important. Odonymer, c'est se réattribuer, c'est commencer à se réattribuer le territoire. Ensuite, accompagner cet odonyme de toute une série de pancartes qui réindiquent les lieux et faire des plans, comme vous l'avez fait, hein, faire des plans des lieux, c'est déjà ce. Et puis ensuite, bien, il faut les faire vivre. Et les faire vivre, les gens de l'Axou, eh bien, sont passés pendant plusieurs années par les artistes, hein, par toute une série donc, d'expositions dans la nature. Et puis de temps en temps, eh bien, ils se lâchaient un peu, puis faisaient des trucs un peu rigolos, comme par exemple ici, il y a eu une année où ils ont accompagné ça de toute une série de panneaux de circulation. Alors, passage d'éléphants roses, passage de chenilles, etc., etc. Donc, ils avaient fait des choses un petit peu amusantes. Et ça a très bien marché. Et ça a surtout été accompagné pendant 20 ans par des sorties pour les enfants tous les jeudis du mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y avait un conteur qui venait avec une grande clé sur son épaule et qui racontait le territoire en faisant des histoires répétitives. Donc je suis allé sur le chemin de la fontaine. Il interrogeait un gamin, il lui disait, qu'il disait par exemple, avec mon sac de pommes de terre, allez, crac, puis allez, recommencer comme ça, etc., etc. Donc il faisait parler les gens, ça. Et il faisait également en langue des signes, en plus. Donc tout ça était très original et tout ça permettait de se réapproprier le paysage. Et aujourd'hui, bien, ce paysage, il est quand même très largement réapproprié. Il y a moins de friches, les gens n'ont plus trop peur d'y passer. Il y a toute une série de chemins qui sont des chemins qui sont assez fréquentés. Les jardiniers sont en partie là, etc. Enfin, ça peut reflancher, ça peut retomber, hein. Mais ça a plutôt été positif et ça s'est fait avec des moyens relativement modestes. Voilà par exemple un exemple de création artistique qui avait été fait dans des vergers qui se réouvraient. Les créations éphémères. Alors, en conclusion de tout ceci, vous voyez donc le paysage, je pense que c'est un beau levier pour réfléchir ensemble, réfléchir avec la base, en termes de gouvernance, en termes d'échange, réfléchir pour se projeter sur l'avenir, pour faire connaître son territoire, pour ne plus en avoir peur et pour pouvoir le compter, le réciter. Alors, il y a toute une série de gens qui réussissent, et un de ceux qui ont peut-être bien réussi dans cette approche-là, c'est les gens de la Meuse avec le fameux Vendée Forêt, qui se termine sur ce personnage un peu étrange ici. Mais c'est certainement là une belle façon de faire. Pour terminer, je vous montre un territoire artialisé, le fameux Déterlin qui, pendant une bonne trentaine d'années, a peint les Hauts-de-Vosges, jusque dans les années 60, ici le Honeck. Et pour terminer, donc, quelques pistes de lecture pour vous. Donc, Roland Comillou, qui avait fait Les peintres des Vosges. Les Vosges et les peintres, pardon. Donc, en ligne, vous pouvez retrouver mon article sur les Vosges artialisées. Il suffit de taper tout cela, et puis vous retrouverez mon article en ligne. Il est récent, puisqu'il est de l'année dernière. Et puis, je donne les références des trois auteurs que j'ai abondamment évoqués ici. François Julliard, « Vivre le paysage », autrement dit, celui qui a fait le lien entre, qui est associé avec, avec les Chinois, avec les contraires en termes de paysage, à un Roger qui nous a parlé de paysage, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis John Willey, qui est un Américain qui vient d'être traduit en français et qui lui aussi est tout à fait intéressant sur ces paysages. Voilà. Alors je pense qu'il fallait aussi laisser du temps pour pouvoir échanger et discuter ou réagir ou regarder à nouveau quelques diapositives si il y a lieu. Voilà, je vous en prie. Voilà. Alors, y a-t-il des réactions, des questions, des interrogations? Voilà ce que font ce que font un certain nombre de géographes sur ce type de sujet, puisque nous, on scoltine quand même l'aménagement aussi, ou on conseille en termes d'aménagement. Et voilà un peu les pistes qu'on essaye de lancer pour essayer de travailler sur un territoire, se le réapproprier, etc. Pas de questions, pas d'interrogations.
C'était dense.
Alors, je peux donner le PowerPoint, bien sûr, hein, si vous le voulez.
Dans le phénomène qui façonne les paysages, vous n'avez pas parlé des cataclysmes, des tremblements de terre.
Oui, alors, c'est vrai, j'ai parlé de l'anthropique, de la guerre, etc. Ouais. Parce que chez nous, il y a relativement peu de cataclysmes, donc c'est vrai. Mais
les volcans.
Oui. Alors ici, on a quand même de la sismicité dans les Vosges. Hein, on a de la sismicité. Le mur du jardin de mon père s'est cisaillé il y a 15 ans de ça, à la suite d'un coup de sismique. Et vous savez que la ville de Bâle a été détruite hein, en 1500 ou quelques, détruite. Donc, il est, oui, alors il y a ça, plus inquiétant, je pense qu'il y a le réchauffement climatique, la récurrence des étés extrêmement chauds, etc. La disparition des hivers très froids, qui peuvent jouer un rôle sur le paysage, c'est sûr. Vous avez raison d'évoquer ça.
Peut-être le cas particulier du projet qui est développé par Edcop, c'est qu'effectivement on est dans des paysages, mais des paysages qui restent, on va dire, sous la coupe et sous la gestion
de l'ONF.
De l'ONF, quoi. Donc il y a tout ce que vous avez évoqué comme piste, oui, quand on est sur le terrain.
Ça aurait été bien qu'il y ait.
Ah oui. Parce qu'on évoquait ce matin, ou tout à l'heure, le radier de Barfontaine, et puis quand il y a il faut qu'ils débardent des bois, ils se foutent pas mal du radier, ils y vont avec leurs énormes trucs. On parlait aussi de la déforestation, reforestation, de l'intérêt qu'ils ont encore à avoir à planter ou pas, de petit à petit la privatisation plus ou moins de la gestion forestière. Et tout ça, ça questionne aussi. Bon, alors, faut pas en faire un drame, mais on n'est pas dans des petits sentiers d'une communauté de communes, d'une collectivité. On est quand même sur un territoire
sur kilomètres.
Qui est un paysage. Ce sont des paysages, parce qu'il y a des tas de traces qui nous racontent que tout ça a été fabriqué par l'homme. Mais en termes de, quand bien même la population se mobiliserait autour de, par exemple, de ce parcours. Elle n'aurait pas beaucoup de. Elle n'aurait aucune prise s'il y a des décisions qui sont prises, je ne sais où, pour faire je ne sais quoi.
Oui, non.
Donc c'est un peu. Après, c'est un concept, par contre, qui peut être délocalisé, le sentier des passeurs. Parce que des passeurs, il n'y en a pas eu que là.
Donc, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion.
Du beau vocabulaire, en tout cas.
Oui, racialisation.
partialisation.
Et puis des idées aussi par rapport à la sensibilisation pour les jeunes. Hein.
Les artialiseurs.
Bah, si, vos productions artistiques font que les paysages d'ici sont lus par le filtre de l'artiste qui va y donner ses couleurs, ses intuitions, ses émotions. Et c'est bien peut-être de l'accompagner avec des musiques.